Nous allons donc vous parler aujourd'hui du chapitre 4 du livre 2 d'Aristote, du De Anima, sur la faculté nutritive. Alors pour commencer, une introduction générale à tout le chapitre. Après avoir distingué au chapitre 3 les cinq puissances de l'âme et leur rapport avec l'âme et leurs inclusions mutuelles, Aristote commence au chapitre 4 l'étude particulière de chacune de ces puissances, en commençant par la puissance nutritive, ou faculté nutritive, ou végétative. Il commence par nous donner la méthode qu'il va suivre pour l'étude de ces puissances. La puissance étant connue par son acte, et l'acte par son objet, Aristote va étudier d'abord l'objet, puis l'acte, afin de définir l'essence de la faculté ou puissance de l'âme. Pour la puissance nutritive, l'objet est l'aliment, c'est-à-dire ce que le vivant assimile dans l'opération de nutrition. Et les actes sont trois: nutrition, croissance et génération. Aristote regroupe ces trois opérations sous la puissance végétative, car elle se retrouve chez tous les vivants, même chez les plus élémentaires comme les végétaux, et sont donc le signe de la présence d'une âme, principe interne grâce auquel le vivant se meut par lui-même, par opposition aux êtres non vivants ou inanimés qui sont mus, sans pouvoir se mouvoir par eux-mêmes. Alors l'aliment est l'objet de ces trois opérations. En effet, il est ce que le vivant assimile dans la nutrition, il est facteur de croissance pour le vivant, il est principe matériel dans l'ordre de la disposition, de la génération, pour un être semblable à celui qui se nourrit. Alors saint Thomas montre dans son traité sur le gouvernement divin, dans la Somme théologique prima pars, question 119, article 2, que la semence humaine provient du superflu des aliments. Alors, en ce sens, il reprend un petit peu ce que dit Aristote dans le traité sur la génération des animaux, au livre 1, chapitre 18. Alors maintenant, un bref résumé du chapitre. Aristote commence à parler de la génération en montrant qu'elle appartient bien à la puissance nutritive et en montrant sa finalité. Il commence par cette opération car c'est elle qui finalise les deux autres et c'est la plus parfaite des trois. Citation: la plus naturelle des fonctions pour tout être vivant parfait. Puis Aristote fait une digression en montrant la triple causalité de l'âme par rapport au corps. Il y parle aussi de la croissance qu'il lie à la nutrition. Enfin, Aristote traite de la nutrition en étudiant son objet, l'aliment. Il conclut en montrant que l'aliment est bien objet des trois opérations de la puissance nutritive et en montrant le rôle de l'aliment et de la chaleur vitale par rapport à cette puissance. Je vais vous parler maintenant de la triple causalité de l'âme. Alors on a pensé commencer par cette partie-là, parce qu'on a pensé que ça éclairerait les deux autres, donc à savoir la génération et la nutrition. Après, le frère Manuel vous parlera de la génération, et pour terminer, le frère Clément vous parlera de la nutrition. Voilà. Alors, ce paragraphe sur la triple causalité de l'âme constitue une parenthèse critique dans ce chapitre 4 qui traite de la faculté nutritive. Aristote y montre le rôle de l'âme par rapport au corps. Il montre en particulier que les opérations végétatives de croissance, décroissance et nutrition relèvent de l'âme. Puis il expose et réfute les doctrines erronées de ses prédécesseurs, en particulier Empédocle. Alors pourquoi montrer que Les opérations végétatives de croissance, décroissance et nutrition relèvent de l'âme. Alors cette démonstration est nécessaire parce que, étant donné ces opérations végétatives, elles s'effectuent toutes par les propriétés actives et passives de la matière ou des corps, c'est-à-dire passage de contraire à l'autre. On pourrait être tenté d'en déduire que ces opérations relèvent d'une puissance physique, c'est-à-dire des corps inanimés, et non d'une puissance de l'âme. On serait encore plus tenté de ne voir que le côté inerte de la vie végétative et d'attribuer ces opérations aux propriétés physiques des corps inanimés, car le caractère immanent de ces opérations est dans les plantes peu apparent et dissimulé sous des dehors nombreux d'activités purement physiques ou chimiques. Aristote expose et réfute les thèses allant dans ce sens. Alors, dans une première partie, Aristote expose sa propre doctrine. Alors, cette doctrine peut se résumer ainsi: l'âme est cause du corps vivant. Et cette causalité va s'étendre en particulier aux opérations végétatives de nutrition et de croissance. Mais la causalité chez Aristote s'entend dans quatre sens différents, qui sont les quatre causes structurant toute sa philosophie. Cause matérielle, cause formelle, cause efficiente et cause finale. D'après la définition de l'âme que donne Aristote, nous voyons bien que celle-ci ne peut être cause matérielle dans le corps vivant, mais que c'est le corps possédant la vie en puissance qui est cause matérielle. Reste donc que l'âme est à la fois cause formelle, efficiente et finale pour le corps vivant. C'est ce que montre Aristote. Et c'est au titre de cause efficiente que l'âme gouverne la nutrition et la croissance. Alors Aristote montre d'abord que l'âme est cause formelle ou forme du corps vivant. Je vous dis tout de suite que je me suis un peu inspiré du commentaire de saint Thomas. Alors Aristote le montre de deux manières. La première raison: une chose est cause d'une autre en tant que cause formelle ou substantielle quand elle est ce qui la fait être. Car la forme est ce par quoi l'être est être actuel ou être précisé, qualifié et réel, être individuel. Or, c'est l'âme qui fait que les corps sont vivants, et c'est cette vie que l'âme leur confère qui les fait être vivants, donc qui leur donne leur être de vivant. C'est ce que veut dire Aristote par cette phrase: vivre est, pour les vivants, leur être même. C'est-à-dire que la nature du vivant est de vivre. L'âme est donc ce qui cause au corps vivant leur être de vivant. Donc c'est l'âme qui est la cause formelle ou substantielle du corps vivant. Alors ça, c'était la première raison. Alors, deuxième raison: l'être en puissance a pour forme l'entéléchie. Ce qui est l'acte d'une chose est son essence, sa définition, sa raison, son spécifiant et sa forme. Et c'est ce qui est en puissance d'être actué qui est la matière ou le sujet de cette spécification ou forme. Mais l'âme est l'acte du corps vivant, comme Aristote le montre au début du chapitre 1. Donc l'âme est la raison, l'essence, la substance et la cause formelle du corps vivant. Alors ensuite, Aristote montre que l'âme est cause finale du corps. Alors nous avons vu toujours au chapitre 1, Aristote partait de cela, que les corps vivants sont des corps naturels. Mais, citation, de même que l'intellect agit en vue d'un but, de même aussi la nature, et c'est ce qu'on appelle sa fin. Les corps vivants, en tant que corps naturels, ont donc une fin. Or, on a vu que l'âme est la cause formelle du corps. Dès lors, elle sera aussi sa cause finale, puisque pour la nature, toute cause formelle est aussi cause finale. L'âme est donc cause finale du corps en tant qu'il est corps naturel. Mais Aristote va plus loin. Il dit que l'âme n'est pas seulement cause finale du corps auquel elle est unie, mais qu'elle est aussi le terme ou but visé par tous les corps naturels qui sont ici-bas. Nous voyons en effet que dans la nature, chaque règne vivant se sert du règne inférieur pour sa nourriture. L'homme se sert des animaux et des plantes. Le règne animal, bien qu'il se serve pour sa nourriture d'autres animaux dans certaines espèces, se sert plutôt du règne végétal. Et le règne végétal se sert des éléments physiques ou chimiques, c'est-à-dire des corps bruts, inanimés, mais naturels. Or, la répétition avec laquelle dans la nature un résultat est régulièrement atteint par un agent laissé à lui-même prouve que ce résultat régulier est la cause finale de cet agent en vertu de sa nature. D'où il est évident que tous les corps inanimés sont au service des corps animés et ont pour cause finale les corps animés. Et de même, les animés moins parfaits ont pour cause finale les animaux plus parfaits. Et en conséquence, Aristote assigne pour cause finale le terme régulièrement atteint par chaque agent laissé à lui-même, tel que cette récurrence régulière a été décrite ci-dessus. L'homme est le but des animaux, ceux-ci sont le but des plantes, et celles-ci sont le but des corps bruts naturels. On peut se demander maintenant si l'âme est cause finale du corps en tant que corps vivant, en philosophie du vivant. Parce qu'en métaphysique, on verra que, en étant l'acte du corps, forcément, elle est cause finale. Ce qui fait que le corps est vivant et qui le distingue d'un corps naturel non vivant, ce sont les opérations vitales propres au corps vivant et qui opère sur l'être matériel, c'est-à-dire le corps sans considérer son union à l'âme. Ces opérations sont celles de l'âme végétative, à savoir la nutrition, la croissance et la génération. Mais ces opérations ont pour but la conservation du vivant tout entier, à savoir le composé âme-corps. Elles ne regardent donc pas directement l'âme. De ce point de vue, l'âme n'est pas cause finale du corps en tant que corps vivant. Mais si on considère que les opérations vitales propres à l'âme, à savoir l'intellection, ne peuvent avoir lieu que si les opérations de vie végétative assurent la conservation du vivant et que les opérations moins parfaites du vivant sont ordonnées aux opérations plus parfaites, selon l'ordre de nature, alors on peut dire que l'âme, en tant qu'esprit ou puissance intellective, est cause finale du corps en tant que corps vivant. Alors ensuite, Aristote montre que l'âme est cause efficiente du mouvement et des opérations propres au corps vivant. Aristote affirme que l'âme est cause efficiente du corps, car elle est cause efficiente de son mouvement, mouvement local, mouvement d'altération et mouvement de croissance. L'âme est cause efficiente du mouvement d'altération. Citation : car la sensation semble bien être une certaine altération, et aucun être ne sent qui n'est l'âme en partage, nous dit Aristote. L'âme est aussi cause efficiente du mouvement de croissance, car, citation, aucun être ne peut dépérir ni croître naturellement sans se nourrir, et aucun ne se nourrit s'il n'est doué de vie. Donc ainsi Aristote rattache l'altération et la croissance à la nourriture, le fait de se nourrir, qui est la caractéristique fondamentale des êtres vivants. Alors, après avoir exposé sa doctrine, Aristote expose et réfute les thèses niant que la croissance et la nutrition relèvent d'une puissance de l'âme. Dans ce paragraphe, Aristote expose et réfute les thèses qui réduisent les actes végétatifs à des processus purement physiques, causés par les propriétés physiques de l'élément terre et de l'élément feu. Notons que cette tendance se retrouve aujourd'hui d'une manière plus évoluée et complexe avec la science moderne, qui voudrait réduire les actes végétatifs à ce qu'on peut en mesurer et en les expliquant par des transformations physico-chimiques. La doctrine philosophique d'Aristote reste donc toujours actuelle et elle est même nécessaire pour comprendre ce que sont les opérations vitales du vivant. Mon exposé continue, mais je vais peut-être céder la parole au frère Emmanuel, je ne vais pas prendre trop de temps.
Bon, alors, il va y avoir deux ou trois passages litigieux. Alors, je vous demande de les noter parce que... Non, ça va, moi, je... alors, vous les notez, puis, puisque ça a toujours été une difficulté entre nous. On va voir si vous les trouvez. Si, en fait, ça va être ça le noyau. Donc, on peut voir trois grandes parties dans l'analyse philosophique de la vie végétative. Donc, je vais faire une petite introduction très générale. Puis après, plus spécifiquement, prendre ce qu'Aristote dit sur la génération même. Sur la vie végétative de l'homme. Premièrement, la recherche de ses principes propres. Deuxièmement, les relations avec la vie sensible. Et troisièmement, les interférences avec la vie de l'esprit. À cause de la profonde unité qui existe dans tout l'individu, la vie végétative de l'homme n'est pas seulement celle d'un animal. D'ailleurs, peut-on maintenir la définition d'animal pour l'homme sans continuer aussi à maintenir un équivoque sur la nature propre de l'homme, la nature humaine ? Nous dirons donc que la vie végétative de l'homme est celle, non pas d'un animal, mais d'un être capable de penser et de choisir librement l'organisation de sa vie. Cette vie végétative de l'homme, par ou si l'on veut à cause de l'influence de la pénétration profonde du troisième degré de vie, la vie spirituelle, elle sera donc cette vie végétative sera donc tout autre que celle de l'animal. Il n'en reste pas moins important pour en saisir les principes propres de l'étudier en ce qu'elle est elle-même, c'est-à-dire dans ses opérations substantielles. Ceci pour comprendre sa place et son importance dans notre existence. On voit ainsi la nécessité d'une étude suffisamment profonde de la vie végétative, car elle a la connaissance du conditionnement du vivant. Bien que, au sens rigoureux, cette expression de conditionnement du vivant ne soit pas fausse, elle est gênante car pour nous l'aspect du conditionnement, c'est plus souvent, le plus souvent représente non pas la connaissance d'une réalité donnée, mais nous oriente plutôt tout de suite vers les limites imposées par cette réalité. Il faut donc garder en mémoire que la connaissance réaliste et donc profonde de ce conditionnement dans lequel nous baignons est une vraie sagesse pratique. Donc vraie sagesse pratique, ça c'est important à retenir parce que j'ai déjà entendu une objection. Alors, pour comprendre le corps vivant de l'homme, nous devons regarder son aspect, son support fondamental, qui est donc la vie végétative. Nous ne vivons pas au niveau de ce degré de vie, mais c'est un élément qui, lorsqu'il est mal saisi, peut amener à des erreurs qui faussent la compréhension des autres niveaux de vie. Par exemple, nous passons beaucoup moins de temps au réfectoire qu'à la chapelle. Pas les frères cuisiniers. Pourtant, si on supprime le réfectoire, on tient plus à la chapelle. D'autre part, pour que cela se passe normalement à la chapelle, il faut un certain équilibre au réfectoire. Bon. Démonstration faite. Seules les opérations du vivant dont nous avons l'expérience, ça c'est ce qu'on avait traité le cours dernier, le dernier séminaire, nous conduisent à saisir les principes propres au travers des dunamis, des facultés ou puissances. Ça, c'est trois mots qu'on peut mettre. Qui sont à la fois, ces dunamis qui sont à la fois les principes immédiats des opérations vitales et des propriétés, et en même temps des propriétés de l'âme. D'une même puissance qu'Aristote nomme tantôt puissance génératrice, tantôt puissance nutritive, sont issues les trois opérations qui vont nous donner la structure de la vie végétative, donc la nutrition, la croissance et la génération. Dans 416A, ligne 19, page 90. Je ne sais pas si je vous lis les citations. Je lis les citations. Première citation, 416A, ligne 19, page 90. La même puissance de l'âme étant à la fois nutritive et génératrice, c'est de la nutrition qu'il est nécessaire de traiter d'abord. La génération est... Il est drôle Aristote parce qu'il dit que c'est de la nutrition qu'il faut d'abord parler et il commence par la génération. Enfin bref. La génération est l'opération substantielle du vivant au niveau de la vie végétative, de la vie biologique. Car cette opération aboutit à la formation d'un être substantiel tout à fait individué et de la même espèce que le géniteur, capable, une fois arrivé à la plénitude de son développement, d'engendrer à son tour. C'est ça le parfait pour le vivant. En lui-même, le vivant, ayant atteint la plénitude de croissance, arrive à un seuil de perfection et ne le dépasse que par la génération. La génération est donc, pour le niveau de vie végétative, biologique, ce qui finalise le vivant. Mais c'est là une finalité de même nature, de même espèce, et non pas quelque chose d'un ordre tout autre que le vivant, c'est-à-dire quelque chose de transcendant. En engendrant, le vivant ne se dépasse pas, mais reste dans son état d'immanence. Il faut donc retenir que c'est par la génération que toute la vie biologique, végétative, prend sa signification. Car de fait, c'est la seule opération substantielle. Bien qu'il commence par dire que ce qui dans le vivant donc est fondamental, c'est nutrition, Aristote traite d'abord la génération. Alors 415A, ligne 24, page 86 dans l'édition Tricot. Alors l'âme nutritive appartient à tous les autres vivants aussi bien qu'à l'homme. Elle est la dunamis, la puissance première. La puissance première, oui. C'est-à-dire, première, c'est-à-dire dans le sens de fondamental, de principe, je crois. La plus commune, c'est-à-dire on la trouve chez tous les vivants. C'est par elle que le fait de vivre, la vie, appartient à tous les êtres. Ses fonctions, c'est-à-dire ses... En fait, en grec, c'est erga. Erga, c'est œuvre. Ses fonctions, ses œuvres... sont la génération, c'est-à-dire le fait d'engendrer, et l'usage de l'aliment, c'est-à-dire le fait de se nourrir. Car la plus naturelle des fonctions, des ergas, des œuvres, des actions, pour tout être vivant qui est achevé, c'est-à-dire parfait, et qui n'est pas incomplet, ou dont la génération n'est pas spontanée, c'est de... Alors là, en grec, c'est topoiesai. Topoyesai, c'est traduit par tricot, créer. Mais en fait, créer pour nous, ça a une... c'est très spécial comme signification. Alors, Topoyesai, c'est peut-être plus dans le sens de fabriquer au sens artistique, comme Dieu dans la Genèse façonne l'homme, en quelque sorte. Donc, ou dont la génération n'est pas spontanée, c'est de topoyesai, de créer un autre être semblable à lui. L'animal produit un animal, la plante une plante, de façon à participer à l'éternel et au divin autant que possible. Tous les êtres, en effet, y aspirent, et c'est à cette fin qu'ils agissent en vue de leur activité naturelle. Donc on considère ainsi le vivant dans sa perspective la plus achevée, la plus parfaite. Et de fait, celui qui est imparfait est incapable de se reproduire. C'est l'opération la plus accomplie. La génération est donc l'opération la plus accomplie. Et toutes les autres opérations de la vie végétative sont en vue de celle-là. C'est le tohu eneka, la causalité finale. Ce en vue de quoi? Les trois opérations qui nous font découvrir les trois dunamis sont toutes les trois finalisées de la même façon. Cette finalité pour tous les vivants n'est donc atteinte que s'ils procréent. Alors, au sujet du terme fin, 415b, ligne 1, page 96, tricot. Or, le terme fin veut dire deux choses. D'une part, le but lui-même, d'autre part, l'être pour qui ce but est une fin. Puisse donc qu'il est impossible pour l'individu de participer à l'éternel et au divin d'une façon continue, par le fait qu'aucun être corruptible ne peut demeurer le même et numériquement un, c'est seulement dans la mesure où il peut y avoir part, participer à l'éternel et au divin, que chaque être y participe, l'un plus, l'autre moins, et il demeure ainsi non pas lui-même, mais semblable à lui-même, non pas numériquement un, mais spécifiquement un. La corruption du vivant physique peut être dépassée par le fait que l'individu se perpétue dans un autre individu de même espèce. C'est au travers de ce dénominateur commun qu'est l'espèce que l'individu arrive à garder, à maintenir ce qu'il y a de plus riche, de plus précieux, c'est-à-dire son être, et cela dans un être semblable à lui, et dont il est le procréateur. Procréateur. Peut-être on pourrait nous dire, procréateur, qu'est-ce que ça implique comme... C'est en regardant donc la finalité non plus au niveau de l'immanence de l'individu, mais au niveau de l'espèce, que l'on découvre quelque chose qui dépasse l'individu, qu'il transcende. Aristote nous introduit par là, non plus dans une analyse proprement philosophique, avec la découverte de principes et de causes, mais dans un regard de sagesse. Alors, pour le vivant, ce qui est important par rapport à sa finalité propre d'être parfait, c'est de donner la vie, et en second lieu, de perpétuer l'espèce. C'est donc au travers de la perpétuation de l'espèce que l'individu dépasse le temps et la corruption et touche à l'éternel. Et la génération nous permet donc de saisir cet appétit d'éternel. L'être individuel, en tant que réalité corruptible, ne participe pas directement à l'éternité. Et donc, pour le vivant individuel, l'éternité n'est pas une fin. L'espèce se perpétue à travers lui. C'est un fait. Il est le porteur de ce quelque chose qu'il dépasse. On sort là du cadre de son immanence pour toucher à cette participation à l'éternel et au divin. Voilà pourquoi il faut montrer que la fin dans le vivant a deux significations, une dans l'immanence et l'autre dans la transcendance. Sinon, on ne peut plus saisir le fait que c'est l'être vivant qui, en tant que porteur de la vie, touche par ce fait de vie à l'éternel. Cette fin en soi dépasse, transcende l'individu, mais il n'y est pas du tout étranger, puisque c'est lui qui en est le porteur, l'instrument absolument fondamental. Le vivant individuel devient ainsi le signe de quelque chose qui le dépasse, qu'il transcende et qui est en quelque sorte dans l'éternité.
Essayons maintenant de comprendre ce qu'est l'aliment pour celui qui s'en nourrit. L'aliment subit une transformation au cours de la digestion. La chaleur est-elle cause de cette transformation ? D'où vient que la chaleur du vivant est limitée ? Y a-t-il un principe, une cause à la chaleur du vivant ? Chez un être animé, quelle est la forme de l'aliment après la digestion ? Il y a assimilation, mais de quelle assimilation s'agit-il ? Puis quelle est la cause finale de l'aliment ? Plus nous apporterons de réponses à ces différentes questions, mieux nous connaîtrons philosophiquement ce qu'est l'aliment, c'est-à-dire ses différentes causes, et plus nous saisirons ce qu'est l'acte de se nourrir et ce qu'est la faculté nutritive de l'âme. Cependant, malgré tout ce qui peut en être dit, nous constaterons qu'il y a là quelque chose de mystérieux, l'assimilation végétative, qui a quelque chose d'unique. Le rôle de la chaleur dans la digestion. Première constatation, 416b, ligne 28, tout aliment doit pouvoir être digéré. C'est le chaud qui opère la digestion, c'est pourquoi tout animé possède de la chaleur. Aristote se demande d'abord, la chaleur est-elle cause de la digestion de l'aliment ? Il rappelle en 416a, ligne 10, le débat contradictoire des philosophes. Pour certains philosophes, ils pensent que la nature du feu est, au sens absolu, la cause de la nutrition et de l'accroissement, car il apparaît en fait que c'est le seul décor ou des éléments qui se nourrissent et s'accroissent. Et dès lors, l'on serait tenté de supposer que, tant chez les plantes que chez les animaux, le feu est la cause opérative. Donc, puisque le feu semble se nourrir, c'est lui qui est la cause de la digestion. Cependant, Aristote réfute cette opinion en induisant l'âme. Il avait dit déjà au chapitre 1 du livre 2, ligne 412 à 20, que l'âme est l'acte du corps. Aristote poursuit en 416 à 15. Mais si le feu est en un sens une cause adjuvante, il n'est pourtant pas une cause proprement dite. C'est plutôt l'âme qui joue ce rôle. En effet, l'accroissement du feu se fait à l'infini aussi longtemps qu'il y a du combustible. Par contre, pour tous les êtres dont la constitution est naturelle, il existe une limite et une proportion de la grandeur comme de l'accroissement. Or, ces déterminations relèvent de l'âme, mais non du feu, et de la forme plutôt que de la matière. Maintenant, à la question « Quelle est la cause de la digestion de l'aliment ?», nous pouvons répondre que la chaleur est une cause efficiente, mais adjuvante, instrumentale, tandis que l'âme est la cause efficiente principale. Mais l'âme est-elle bien la cause selon la forme de la digestion ? Aristote a dit que la cause de la nutrition, c'est plutôt la forme que la matière. Il n'a pas dit plus. Il n'a pas précisé la forme de quoi ? Est-ce la forme de l'aliment ? Non, bien sûr. Un lapin qui mange une carotte ne prend pas la forme de la carotte. C'est plutôt la carotte qui, une fois digérée, assimilée, prend sa forme à lui. À ce sujet, Aristote rappelle un autre débat entre philosophes. Les uns disaient « c'est le semblable qui se nourrit du semblable ». En effet, pour que la nutrition d'un aliment permette à un vivant de grandir, il faut que ce vivant grandisse selon ce qu'il est lui-même. Rien de surajouté, d'extérieur à lui, ne peut venir se juxtaposer à ce qu'il est lui-même. En ce sens, le semblable se nourrit du semblable. D'autres disent pas du tout, c'est le contraire qui se nourrit du contraire. En effet, l'aliment est transformé, il perd sa substance, la preuve, l'aliment pâtit, alors que le sujet alimenté ne pâtit pas. Aristote résout la difficulté en apportant une distinction concernant l'aliment. Il dit ceci en 416b2. Mais qu'entend-on par aliment ? Est-ce ce qui s'ajoute à l'être nourri en dernier lieu ou en premier lieu ? Cela fait une différence. Si les deux sont des aliments, mais l'un non digéré et l'autre digéré, dans l'un et l'autre sens, on pourra parler d'aliment. Car en tant que l'aliment est non digéré, le contraire est nourri par le contraire. Mais en tant que l'aliment est digéré, le semblable est nourri par le semblable. En somme, pour reprendre ce que nous dit Aristote, il y a comme deux stades. L'aliment non digéré, il a une substance différente de celle de l'alimenté. Le contraire est nourri par le contraire. Deuxième stade, l'aliment est digéré, il a une substance semblable à celle de l'alimenté. Le semblable est nourri par le semblable. Que s'est-il passé ? Pourquoi la digestion achevée, l'aliment n'est-il plus contraire à l'alimenté ? Pourquoi l'aliment est-il devenu semblable à l'alimenté ? Aristote nous met sur la voie quand il affirme « L'aliment est relatif à l'être alimenté. » Cette remarque est très éclairante. L'inverse n'est pas vrai. L'alimenté n'est pas relatif à l'aliment. Autrement, l'alimenté deviendrait semblable à l'aliment qu'il ingurgite. Il prendrait la couleur de son café ou de son lait ou de son café au lait. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. C'est le café, le lait, qui prennent la forme de ce que nous sommes. Aristote précise, l'aliment est relatif à l'être alimenté, et cela non par accident. Sans qu'Aristote le dise explicitement, il indique bien qu'il y a là une relation substantielle entre l'aliment et l'alimenté. L'alimenté assimile l'aliment, de telle sorte que l'aliment reçoit la substance de l'alimenté. C'est une assimilation substantielle. Ainsi, Aristote met en lumière le rôle fondamental de l'aliment, 416b15. La nourriture, dit-il, conserve la substance de l'être animé qui continue d'exister aussi longtemps qu'il se nourrit. Le philosophe nous place devant un fait mystérieux, le vivant de vie végétative est capable d'assimiler substantiellement. Il est seul à pouvoir le faire. Au niveau de l'esprit, le vivant ne peut assimiler qu'intentionnellement. C'est l'apanage de la nutrition d'être substantiel. Après avoir réfléchi sur l'aliment et sur l'acte de se nourrir, nous pouvons mieux comprendre ce qu'est la faculté nutritive de l'âme. Elle a pour fonction d'abord de conserver la substance de l'être animé, ensuite de permettre la croissance de l'être animé jusqu'à l'état de perfection de sa nature, sans que rien d'extérieur à lui ne lui soit juxtaposé, et enfin de s'achever dans la génération d'un être semblable à l'être nourri. Aristote ajoute que dans la nutrition il y a trois facteurs, 416b20, d'une part, ce qui nourrit, c'est l'âme première. D'autre part, l'être nourri, c'est le corps qui possède cette âme. et enfin ce par quoi il a nourri, c'est l'aliment. Aristote précise ce qu'il entend par âme première, puisqu'il est juste, 416b24, puisqu'il est juste de dénommer toute chose d'après sa fin, et que la fin est ici d'engendrer un être semblable à soi, l'âme première sera l'âme génératrice d'un être semblable à celui qui la possède. Pour conclure, soulignons seulement le fait étonnant de l'assimilation substantielle. Le vivant est capable de transformer en lui-même ce qui lui est extérieur. Oui, c'est 416b24. Je crois que ça répond à ce que se demandait frère Manuel tout à l'heure. Quand Aristote nous parle de nutrition, et voilà qu'il parle de génération. Pourquoi ça? Pour cette raison que, puisqu'il est juste de dénommer toute chose d'après sa fin, la fin de l'âme végétative, c'est d'engendrer. Donc, puisqu'il est juste de dénommer toute chose d'après sa fin, et que la fin est ici d'engendrer un être semblable à soi, l'âme première sera l'âme génératrice d'un être semblable à celui qui la possède.
Est-ce que vous pourriez préciser ce problème de l'âme comme fin? C'est la première fois qu'Aristote dit que l'âme est fin. Et puis d'autre part, c'est quand il y a de l'âme végétative, donc en vue de la procréation. Alors, comment est-ce que l'âme est fin à la fois comme engendrant un autre vivant, et puis l'âme est fin du corps vivant?
Qu'est-ce que ça veut dire l'âme fin?
L'âme est cause, c'est la cause finale, alors il le dit. On a pris une causalité de l'âme. 415 A, 15. C'est encore aussi que le pain que l'âme est cause.
Oui. Elle recherche son bien. Et son bien, c'est d'être éternel, de participer à l'éternel et au divin.
Il y a ça, Manuel nous l'a dit, les corps animés ont pour cause finale des animaux plus parfaits. Alors moi je ne comprends pas bien comment on peut expliquer la causalité finale de l'âme. L'âme est fin du corps, ça on l'a vu dans l'induction de l'âme, il n'a pas dit, il n'a pas employé le terme de fin. C'est la première fois qu'il l'emploie comme pour l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire justement? L'âme est cause finale du vivant.
C'est là, on n'a pas dit. Exactement, que l'âme est cause finale du vivant, mais qu'elle est cause finale du corps.
Corps vivant.
Corps vivant, quoi. Que le vivant, c'est le tout. C'est ce que j'ai essayé de montrer, que l'âme, on peut dire d'abord, enfin Aristote apparemment, montre que l'âme est cause finale du corps en tant que corps naturel. Et puis après, il va plus loin, il dit que l'âme est aussi cause finale de tous les corps qui sont... inférieur à l'homme. Et après, j'ai essayé de montrer comment ce qu'on pouvait dire que l'âme était cause finale du corps en tant que corps vivant. Et alors là, j'ai montré qu'on pouvait dire ça en raison de la perfection des opérations qui sont propres à l'âme. Donc, il finalise les autres opérations, en particulier celles qui sont propres au corps. Puisqu'on ne peut penser que si on se nourrit. Mais disons que la vie végétative, en quelque sorte, et la vie sensible sont finalisées par la vie spirituelle. Puisque...
Vous avez dit que là, ce qui finalise l'âme végétative, c'est la génération.
Mmh. Oui. Non, là, la génération, disons, ça finalise le vivant pris dans son ensemble. Quoi. Tandis que là, je parlais de l'âme en tant que cause finale du corps. Si je regardais l'âme et le corps, c'est que la génération, elle est, disons, cause finale, mais du vivant pris dans, dans son ensemble. Quoi. Disons, de l'individu. Quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
Qu'est-ce que c'est la faculté nutritive ?
Qu'est-ce que c'est que le diestie, la faculté nutritive ?
La faculté nutritive, la puissance.
C'est un petit peu ce qui dit à la fin, quoi.
Tunelis. Parce que quand on dit faculté, on ne sait plus.
Quand il conclut de son étude sur l'aliment, il conclut justement, il donne un petit peu la réponse de l'étude qu'il avait posée, l'objet de l'étude qu'il avait posée au début. Alors il dit, « Ainsi, ce principe psychique, tel que nous l'avons décrit, est-il une puissance capable de conserver l'être ?» tel qu'il est, tandis que l'aliment dispose ce principe à agir. Ainsi, privé de nourriture, l'être ne peut-il subsister ? Puis donc qu'il y a trois termes, l'être nourri, ce dont il se nourrit, et le principe de la nutrition. Ce principe, c'est l'âme primitive, l'être nourri, c'est le corps qui la possède, et ce dont il se nourrit, c'est l'aliment. Donc il conclut en quelque sorte que cette âme primitive, son tiesti, c'est le principe qui est capable de conserver l'être qui le reçoit tel qu'il est. Donc c'est un peu un principe de conservation. Alors un principe de conservation pour l'individu en tant qu'il se nourrit, et pour l'espèce en tant que cet individu est capable d'engendrer un autre individu semblable à lui. Et la croissance étant pour... amener à cet individu un état de perfection auquel il pourra engendrer un autre individu.
C'est une deuxième chose qui, au niveau d'un terme qu'on peut Aristote, il parle de l'âme nutritive. Est-ce que vous pourriez distinguer l'aspect de la puissance, la faculté nutritive, et l'aspect de l'âme nutritive comme tel ?
La dounamis, c'est la psyché.
Voilà. Les rapports entre la dounamis et la psyché. Là, il parle quand même d'âme nutritive.
Ça
fait une seule chose, parce qu'il y avait une distinction.
Je me suis posé la question. J'ai rédigé un petit paragraphe. Est-ce que je peux le lire ?
Oui, très bien.
C'est justement, c'est une question qui m'a posé problème.
Oui, oui.
Dès le départ, c'est pas très clair.
Ça revient un peu avec ce qu'on disait la dernière fois. Oui. L'âme et les puissances.
Oui. Alors, c'est un petit peu le problème du rapport de la puissance végétative avec l'âme.
Oui.
Alors, dès le début du chapitre, Aristote assimile puissance végétative à âme nutritive, ou âme primitive. Alors, il dit en effet, en 415a, 23-26, c'est vraiment au début du chapitre, l'âme nutritive appartient à tous les autres vivants, aussi bien qu'à l'homme. Elle est la première et la plus commune des facultés de l'âme. C'est par elle que la vie est donnée à tous les êtres animés. En effet, c'est l'âme qui donne la vie aux êtres animés par définition. Or, ce qui caractérise les êtres animés, les vivants, c'est qu'ils ont tous au moins ces trois opérations : nutrition, croissance-décroissance et génération. Ces trois opérations relèvent donc de l'âme. Et comme ces trois opérations sont le propre de l'âme méditative, c'est un peu pour ça que Aristote emploie indifféremment le terme de âme végétative ou âme primitive ou âme nutritive.
Et des fois génératrice. Oui.
D'ailleurs,
c'est des regards différents. L'une c'est par rapport à la finalité, l'une c'est par rapport au départ.
Alors, est-ce qu'il y a une distinction entre le point de vue de la tsunami, c'est l'âme?
Alors, disons, je crois qu'on peut les confondre quand on parle des vivants qui n'ont pas d'autre puissance, c'est-à-dire qui n'ont ni la puissance sensitive, ni aucune des quatre autres puissances. Mais à partir du moment où Aristote parlera de la faculté sensitive,
putain, là, ça,
il ne pourra plus confondre.
Il faut faire le parallélisme avec la phusis. Et dans l'ordre de la phusis est la propriété de la phusis. Par exemple, pour le feu, ce qu'est le feu et l'activité du feu peuvent-ils se distinguer? Oui, c'est un petit peu le parallélisme entre les deux. Oui, je ne peux pas distinguer l'âme nutritive et la dunamis nutritive.
Est-ce qu'on pourrait prendre le raisonnement pour les autres types de vie? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on ne distingue pas l'âme nutritive de la faculté nutritive, l'âme sensitive de la faculté sensitive et l'âme noétique?
Non, on ne peut pas dire ça. L'âme nutritive est très proche de la phusis. Or, la phusis, dans l'ordre de la phusis, pouvez-vous distinguer? Prenez la phusis dans son scala tout à fait élémentaire, le feu. Pouvez-vous distinguer la nature du feu et l'activité du feu et la propriété du feu? Oui. L'eau. Alors, pouvez-vous distinguer dans l'âme nutritive ce qu'est l'âme nutritive et la dunamis?
La phusis n'implique pas une immanence.
Quoi?
La phusis n'implique pas une immanence.
Ah oui, l'immanence aussi. La phusis dit principe immanent de l'activité.
Le vivant, ça ne définit pas ça par l'immanence, justement.
Oui, il y a une immanence plus grande, mais déjà la phusis là. Ah, moi, je crois que c'est par l'opération, vous pouvez seulement distinguer, c'est que dans la vie végétative, pouvez-vous voir des moments où la vie végétative est au repos, la fin de la digestion? Est-ce qu'il y a un véritable repos dans la vie végétative?
Un arrêt complet?
Quoi?
Un véritable repos serait un arrêt complet, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe dans la nature.
C'est pas comme ça que ça se passe.
C'est ralenti.
Mais puis on se relève. Puis comme ça, portez une goutte d'eau en plus, ça recommence. Et puis vous respirez tout le temps. Vous respirez. Or, la respiration, elle signe la vie végétative. Et la respiration est continue. Donc la vie végétative est tout le temps en mouvement, comme la phusis. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas séparer les deux. Dans une vision de sagesse, vous pourrez distinguer, de voir que dans toute créature, il y a une distinction entre ce qui est son être et son devenir. Mais au niveau de l'analyse, de la philosophie de la nature, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que la philosophie du vivant, chez Aristote, fait partie de la philosophie de la nature. Oui, ce ne sera qu'au niveau de l'opération de connaissance et l'opération spirituelle qu'on pourrait distinguer les deux. Je crois qu'au niveau strict de l'âme végétative, c'est la conclusion que vous avez abouti à ça, ou bien non? Votre conclusion est laquelle là-dessus? Vous voyez la question posée, hein?
C'est pas bon de dire que la puissance végétative se confond avec l'âme tout entière pour les vivants qui ne possèdent que ces trois opérations.
Ah, est-ce qu'elles se confondent avec le tardier ou bien on ne peut pas les distinguer? tu pourrais presque mieux dire ça.
On ne peut pas les distinguer.
Oui, on ne peut pas les distinguer, que se confond.
Oui, non, oui, c'est ça, dans la réalité.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle se confond.
Parce qu'on a posé une âme radicale, puis ensuite on voit les degrés de vie. Et dans les degrés de vie, on voit des facultés, des puissances diverses. Oui. Donc, au point de vue de l'analyse, on voit bien qu'on peut discerner certains moments de l'analyse, mais on ne peut pas arriver à préciser exactement leur source. La distinction entre les deux.
Oui, c'est pour ça qu'il envoie un mot pour l'autre,
exactement.
Tantôt général.
Tout à fait.
Tantôt c'est le point de vue final, tantôt c'est le début.
Tantôt c'est la nutrition, tantôt c'est la génération. Parce qu'au fond, il y a une continuité. Et que le vivant de vie végétative, le vivant de vie biologique, il est pour la procréation, il est pour la génération. Et donc on ne peut pas le couper de sa fin.
C'est vraiment la fin qui donne
le sens.
Qui donne le sens.
Sinon, tout à fait, tout à fait.
On essaye de voir le point de départ, de remonter. Mais il y a quelque chose qui est un peu bizarre, parce que ça, on a l'impression d'être en train de disséquer, mais on arrive toujours plus loin, et puis en fait, on se retrouve devant rien du tout, parce que on ne sait pas si. Il y a une âme.
Oui, vous pouvez distinguer des opérations diverses.
Oui, ça l'est.
Bon, si vous pouvez distinguer des opérations diverses, vous pouvez distinguer quand même qu'il y a nécessairement une source diverse à cette opération. Et qu'il y a une source commune à ces diverses opérations. Et il ne faut pas aller plus loin. Oui.
Dans cette ligne-là, vous avez dit un moment au niveau de la nature, toute cause formelle et cause finale est aussi cause finale. Est-ce qu'il ne serait pas plus correct de dire toute cause finale est aussi cause formelle?
Non. Toute cause formelle est cause finale, d'une certaine manière. Ça vous gêne? Pourquoi? Je suis au niveau de la phusis. Faites attention, vous pensez au point de vue métaphysique, vous. Vous voyez, des formations métaphysiques. Vous êtes en philosophie de la nature.
Mais la détermination, on l'a.
Comment Aristote passe-t-il en physique? Comment passe-t-il? Il pose la phusis, puis comme principe immanent de l'opération. Dans cette phusis, il pose ensuite forme et matière. Et en fonction de la forme, il pose la fin. C'est par la forme que je pose la fin, quand je suis en phusis. Oui.
Et dans le vivant, est-ce que c'est pareil?
On est devant une composition physique. À cause de la matière, je ne peux pas, je crois. C'est la détermination, c'est la forme qui détermine et qui me permet de comprendre dans le mouvement naturel sa finalité. Oui.
Toujours pour revenir à ce sujet entre le rapport entre la puissance et l'âme, qu'est-ce que devient la distinction qui est faite à Aristote au chapitre 3 sur l'âme, principe propre du vivant, et la dynamis, principe immédiat? Est-ce que cette distinction demeure à ce niveau-là?
Oui.
Alors comment voir ça par rapport à cette unité qui est là?
Ah, allez-y. C'est vous qui devez faire.
On parle des opérations vitales pour découvrir.
C'est une opération vitale qui vous fait bouger. OP vitales.
Donc, dynamis.
Ah, c'est ça.
Dynamis et bon, puissance.
Mais oui, faculté, pardon, Ragnir, supprime les facultés.
Le principe de vie immédiat. Immédiat, hein, c'est ça. Principe immédiat. sont en même temps des propriétés de l'âme.
Autrement dit, Aristote a vu tout ça.
Alors, la puissance, ça c'est de la vie végétative. L'âme végétative. Puissance. Est-ce qu'on remet ici puissance végétative ?
Non. On dit âme.
Âme.
On veut dire âme. Âme végétative. Et vous mettez principe et non pas puissance.
Pardon ?
Vous mettez principe et non pas puissance.
Ici. Oui. Principe de vie.
Principe, oui. Radical.
Oui. Parce que...
Alors ma question, c'était de savoir comment, puisqu'il y a un lien, une unité entre l'âme végétative et cette puissance, comment on peut encore distinguer principe immédiat et principe propre ?
À quoi ces opérations diverses ? C'est la diversité des opérations qui vous oblige de faire ça. Et la continuité vous oblige de montrer que la dynamie, c'est comme une propriété. La propriété, c'est que c'est montre l'attachement. Et la diversité exige de poser un principe immédiat. Oui. L'intensité plus ou moins grande des opérations vitales oblige de montrer que de fait il y a une distinction entre le principe radical et le principe immédiat. Quand vous dormez, vous voyez, il y a quand même quelque chose d'un petit peu au ralenti. Alors, c'est ça qui permet. Aristote n'insiste pas beaucoup là-dessus. Les stoïciens insisteront beaucoup là-dessus, sur le tonos, l'intensité. Après, ça ne fait pas beaucoup cela. Mais au fond, on peut le faire intervenir. Il y a une intensité plus ou moins grande, me dit. Parce que d'une certaine manière, les opérations vitales sont toujours en acte. La différence, quand vous regardez, vous fermez les yeux. Tandis qu'au niveau vie végétative, c'est pas commode de fermer la boutique.
Est-ce que l'intensité, on la touche pas un petit peu plus au niveau de la croissance ?
Oui.
Parce que justement, mais à un moment.
La croissance, c'est pas l'intensité.
Ben oui.
L'intensité, Aristote, ne touche pas. Alors que l'intensité sera extrêmement fortement marquée par les stoïciens. Et je crois que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Oui.
Où est-ce qu'on a saisi ?
Oui. Quand même, quand vous mangez, il y a une intensité plus grande.
De votre âme végétative.
De votre puissance nutritive. Elle est quand même plus en acte. Il y a des moments où votre estomac est un peu plus allégé. Hein? Je crois.
Quand on jeûne.
Voilà. Il y a des intensités plus ou moins grandes. Cette idée d'intensité, elle est très peu dans Aristote. Oui. Elle est très très forte, marquée par les stoïciens. Parce qu'ils insisteront moins sur l'aspect objet, et tout sera du côté du tonos, du côté de l'intensité. Et je crois qu'on peut. Parce que Aristote n'insiste pas, parce qu'Aristote analyse. Donc je comprends très bien qu'il n'insiste pas. C'est ça, c'est sa manière de. Ce qui l'intéresse, c'est de déterminer, donc en analysant, chercher les causes. Causes qui déterminent, qui spécifient l'objet. Cause finale, puis cause efficiente. Cette cause efficiente est plus ou moins, elle est radicale, elle est immédiate, c'est suffisant. Pas besoin de dire plus. Dans la cause efficiente, vous avez les deux moments. Alors, un des aspects qui est très important qu'on a souligné du reste tout à l'heure à propos des carottes, n'est-ce pas, c'est que, parce que ça on le reverra avec le point de vue des facultés sensibles, c'est quand on est au niveau de la vie végétative, donc au niveau de l'âme végétative a par elle-même sa détermination. Oui. Et elle mesure d'une certaine manière les aliments assimilables et les aliments non assimilables. Et chaque vivant a ses déterminations propres. Oui. C'est que l'assimilation est déterminée par la puissance immédiate nutritive. L'aliment, d'une certaine manière, est matériel de l'ordre de la disposition, mais ne détermine pas la digestion. Vous savez, quand vous prenez une digestion d'un aliment, du porc, et vous prenez au contraire de la purée de pommes de terre, la digestion n'est pas la même. L'aliment est différent, mais la digestion formellement est la même. C'est le même vivant qui digère. Donc, c'est pour ça que l'objet, en réalité, ne détermine pas. Il détermine matérialitaire. Oui. La détermination, elle vient de la faculté. Et quand votre vitalité diminue, vous êtes obligé de prendre un régime. Hein? Parce que votre vitalité diminue. Quand vous avez une vitalité très forte, bon, l'objet matériel, il y a des gens qui ont un appétit d'ogre et qui ont un estomac, vous leur donnez les choses les plus difficiles à digérer, ça bouge absolument rien.
Est-ce qu'on peut dire que là que l'âme, comme vous avez dit, elle détermine. Elle a quelque chose de plus elle a une intensité plus grande que celui qui a besoin du régime.
Oui, c'est sûr. Le bois.
Mais ça, c'est propre donc à l'individu.
C'est propre à l'individu. C'est propre à la faculté particulière. Ou la vitalité plus ou moins grande. Mais alors, c'est justement ce qu'Aristote n'a pas vu. Il n'a pas du tout traité ça. Mais si nous regardions, parce qu'il est dans l'ordre du tiesti, dès que vous regardez le pouce, alors vous auriez l'intensité. L'intensité, c'est du côté du pouce. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous devons compléter tout ce qu'Aristote dit par le point de vue du pouce.
Vitalité, intensité, c'est...
C'est le pouce, c'est le comment.
Et... Ça donne le fondement, en fait.
Oui, il donne l'analyse première, vous voyez, au fond. C'est déjà bien, parce qu'il n'y avait rien avant.
Pour cette finalité extrinsèque de la génération, c'est quand même que cette communication est éternelle, si vous voyez ce que vous avez dit. Quand il parle de l'homme, c'est quand même qu'il y a la contemplation, et là il parle de cette participation à l'éternel de l'homme.
Ah, oui, mais fais attention, il parle de l'homme. Hein. Il est en face de la vie végétative en elle-même. C'est très vrai, c'est la vie végétative de l'homme, c'est sûr. Mais il fait comprendre que la vie végétative permet à l'individu corruptible, malgré sa corruption, d'avoir un contact avec l'éternel. Oui. Le véritable contact, ce sera le point de vue de la contemplation. Et c'est pour ça que la contemplation peut dispenser de la procréation. Si la contemplation ne faisait pas toucher l'éternel, on ne pourrait pas se dispenser de la procréation. Ça deviendrait une nécessité, c'est très curieux. Dans les pays où les traditions religieuses obligent, prenez les musulmans, le point de vue de la procréation est une obligation. On ne peut absolument pas comprendre qu'on puisse se dispenser. Vous vous souvenez de la réflexion que vous avez dit une fois, prêchant à Kermoussa. Mais ces braves étudiants musulmans qui assistaient, et puis pendant toute la prédication, il y avait d'une part les religieuses d'un côté et les moines de l'autre. Dans toute la prédication, ils essayaient de voir comment on pourrait faire des mariages entre les deux. Et au bout de 3 jours, ils étaient venus me trouver en me disant, mais comment se fait-il? Ils sont si bien, mais qu'ils ne se sont pas mariés entre eux. Ça ferait des foyers extraordinaires. Alors j'ai simplement dit, oui, mais si c'était marié, vous ne seriez pas là. Alors il s'est dit, ah, je n'avais pas pensé. C'est vrai, si c'était marié, on ne serait pas là. J'ai dit, oui, parce qu'ils ils peuvent vous recevoir, parce que justement, ils ne sont pas mariés. C'est pour eux la première manière de comprendre qu'il peut y avoir un célibat pour permettre une charité fraternelle. Puis après, j'ai essayé d'expliquer pour la contemplation. Mais c'était musulman à l'état. De jeunes étudiants qui étaient tout à fait sans aucun a priori, qui cherchaient à comprendre.
Quand on dit, le frère Clément a dit, la nutrition est l'opération substantielle de la vie végétative.
Oui.
Alors, ça, c'est vrai. Alors, la génération, c'est l'opération substantielle.
Oui, par excellence.
Par excellence.
Oui, Maxime est allé dans la vie nutritive.
Dans la vie nutritive.
Oui.
Alors, il y en a deux.
Il peut y en avoir deux. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a deux finalités. Il y a une finalité immanente, voilà. Une finalité extrinsèque tout en restant immanente. Immanente pour la nature et extrinsèque par rapport à l'individu. Transcendante par rapport à l'individu. Et immanent par rapport à la nature.
Et alors, il y a une autre opération substantielle qui est la contemplation.
Oui, tout alors, à fait.
Donc en fait.
Il y en a trois. Oui, mais la nutrition, vous comme elle est en vue de l'autre, ça se tient.
Donc il y en a que deux.
En réalité, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux qui stabilisent l'individu. La nutrition ne stabilise pas. À moins de prendre la forme ronde. Autrement, la nutrition ne stabilise pas. Tandis qu'il y en a deux qui vraiment stabilisent et permettent le repos, la procréation et la contemplation.
Alors, cette chose de repos, moi, je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites la procréation stabilise l'individu dans le repos?
Ah oui, puisqu'elle elle dépasse l'individu pour permettre à l'espèce d'avoir quelque chose d'éternel. Ah, c'est pas psychologique, hein? Pas du tout. C'est au point de vue de la nature. Mais c'est très important. Beaucoup plus qu'on le pense. Vous voyez, la stabilité d'un moine n'est pas la stabilité du foyer. Et si vous transposez la stabilité du moine dans le foyer, vous faites des bêtises et l'inverse aussi. C'est très très curieux. Il y a une stabilité au niveau de la vie végétative que la vie monastique déracine. On est tous déracinés au point de vue végétatif. C'est pas étonnant que ça mette du temps à se rééquilibrer. C'est pas qu'on fait les médecins là-dessus. Non, mais c'est un déracinement complet. Et la finalité et la stabilité vient de la contemplation. Tandis qu'au contraire, naturellement, la stabilité vient de la procréation. Vous voyez, c'est pour ça que psychologiquement on comprend comment certains psychologues disent en dehors de la procréation, en dehors des rapports de vie sexuels, il n'y aura pas d'équilibre. Freud. Oui.
L'influence, c'est un effet, quoi.
Oui, c'est un effet. Mais il y a quelque chose qui est vrai au point de vue de la nature. Ils oublient de regarder l'autre stabilité, qui est l'autre finalité. Mais qui est beaucoup, qui met plus de temps, ça met du temps. Mais c'est très vrai. La vie religieuse déracine, ça, c'est sûr. Va vers la terre de Canaan.
qui explique dans Génération et Corruption cette finalité-là, qui explique bien cette vie de finalité. Ainsi, il y a nécessairement génération et destruction pour qui peut être le baser. C'est donc là la cause matérielle des corps et des êtres engendrés, et leur cause finale, c'est la forme et l'espèce, qui n'est autre chose que la définition de l'essence de chaque chose.
C'est dans quoi ça?
Génération et
corruption. Ah oui, oui. Espèce. On devrait dire forme informante et la forme déterminante. Vous voyez, morphé et eidos. Eidos, c'est la forme telle que Platon la prend. Et morphé, c'est la forme qui informe le corps, qui n'est autre chose que la définition. Dans ceci n'est rien d'autre que le logos, oui, la définition. Et la substance, alors c'est toujours la même chose. On ne fait pas attention, c'est essence ou substance. Hein. Le logos est la substance de chacun. En réalité, c'est la substance de chacun. C'est l'ousia. L'ousia est en forme et eidos.
Et alors, ce qui est étonnant, il ne parle pas du tout de l'aspect fécondité, communication substantielle, enfin...
Non, c'est une analyse fondamentale, très intéressante, mais pas fouillée du tout. Du reste, c'est normal, puisqu'Aristote donne tout un livre sur la génération et la corruption. Oui. Ceci est élémentaire, et puis ensuite, si vous voulez développer, lisez-le déjà, Aristote est corruptionné. Là, Aristote regarde la génération et la corruption. Oui. Ceci demande d'être complété. C'est tout à fait élémentaire comme analyse. C'est très élémentaire. Vous voyez ? C'est très intéressant parce que c'est élémentaire. Mais c'est très élémentaire. C'est vrai que c'est très court. On le sent bien. Mais si on veut bien le comprendre, regardez le déjà, c'est d'être corruptionné. Oui. Et les parties des animaux. Moi, ça, c'est des choses extrêmement intéressantes. Dans le dégénérationnisme de corruption et les parties des animaux. Oui.
C'est une question, en fait. C'était, on a dit à un moment que l'âme était cause d'altération. Pouvait être cause d'altération. Au niveau végétatif, ça représente quoi?
Par rapport à l'aliment.
Oui, non, mais d'altération. Je vais comprendre la cause d'altération.
Pour l'aliment.
Pour l'aliment.
Le fait cuire. S'il n'y a pas de chaleur. Non.
On avait tout le principe des passions. Donc, en fait, cause d'altération du corps.
Du
vivant. Oui. Ouais. Mais là, ce n'est pas cause d'altération du vivant.
Non, ce n'est pas du vivant.
Je ne vais pas parler de l'âme cause d'altération du vivant.
De l'aliment. C'est la nutrition. Et c'est pour ça que dans la nutrition, on se pose la question de savoir si la chaleur joue le rôle déterminant ou de disposition ou de coopération. Qu'est-ce qui détermine dans la nutrition? Est-ce que c'est l'âme nutritive ou est-ce que c'est la chaleur?
Mais est-ce que l'âme, c'est pas de la chaleur?
Qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce qu'on peut pas dire alors que l'âme, c'est de la chaleur?
L'âme implique la chaleur, puisque le feu, c'est l'élément supérieur. Est tout proche, hein, tout proche de l'âme. L'âme, elle est chaude, elle n'est pas froide.
Moi, j'arrive pas bien à saisir comment on peut séparer la chaleur de l'âme.
Ah, de l'âme, parce que là, la chaleur, elle est physique. Elle est sensible. D'ailleurs, l'âme, c'est Dieu touché par toi.
C'est un effet.
Quoi ?
C'est un objet.
Ah oui, c'est un effet. Ah oui. Ah oui. Mais dès qu'il y a l'âme végétative, il y a toujours de la chaleur. C'est une propriété, une conséquence, un effet. Il y a des animaux, un sang-froid. Ça, c'est toute la grande question, car ça se traite la question.
C'est plutôt pour parler d'énergie ou...
Oui, oui, c'est plutôt pour la nutrition. Vers le soleil.
Mais... Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'autres formes d'énergie que la chaleur.
Pour oui, c'est évident, fou, c'est évident. Oui, c'est pas le... c'est le plus sensible, ça. C'est l'énergie, c'est l'élément actif, oui, qui agit sur l'autre. Bon, très bien. Bien.